des personnes qui prennent le baptême, qui s'engagent. Le baptême, nous dit la Bible, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est vraiment une manière de dire au Seigneur, on te reçoit dans notre cœur, et puis nous aussi, Seigneur, on s'engage à te suivre avec une bonne conscience. Ça ne veut pas dire que on va jamais commettre d'erreur. On aimerait pouvoir prendre un engagement qui fasse que du jour au lendemain, notre vie soit entièrement et totalement différente et dans laquelle on ne fasse plus rien de mal. Qui serait intéressant, qui serait intéressé par une opération de ce genre-là? C'est formidable quand même. Imaginez de pouvoir passer comme ça dans l'eau du baptême et puis sitôt sorti, ça y est, c'est fini, votre vie totalement bouleversée, totalement transformée, et vous sortez comme un ange, quoi, si vous voulez. Ce serait pas mal, quand même. Mais la Bible ne nous indique pas, en fait, que les choses sont ainsi. Elle nous indique que quand on sort de l'eau du baptême, bien sûr, on a reçu le Seigneur dans notre cœur. Oui, on s'est engagé à le suivre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne commettra plus d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des moments où on sera peut-être un petit peu court, un petit peu juste. Et c'est comme ça. On aimerait que ce soit différemment, mais c'est comme ça. En tout cas, comme ça pour le moment. Et ce baptême, c'est aussi, quelque part, le fait qu'on s'engage à suivre le Seigneur jusqu'à ce que aussi lui revienne. Et un jour, on aura cette rencontre avec le Seigneur, soit quand on mourra sur la terre, ou soit quand lui-même reviendra. Et là, on a conscience que, alors, un jour, le Seigneur vraiment nous transformera de manière durable et de manière aussi parfaite. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. On va ouvrir la parole du Seigneur un instant. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la rencontre que Jésus va faire avec un homme qu'on appelle dans la Bible le jeune homme riche, parce que c'était un jeune homme et parce qu'il était riche, tout simplement. Et on va le lire, je vais le lire pour vous ici dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, et on va lire donc 10 versets, du verset 16 au verset 26. Et au travers de cette rencontre-là de Jésus avec ce jeune homme riche, on va essayer d'en tirer quelques éléments, je dirais, pour nous aujourd'hui, par rapport à Dieu. Voilà, ça c'est important. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Ce jeune homme riche vient vers Jésus et il vient avec un but qui est vraiment honorable. Il vient vers le Seigneur et il pose cette question, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» L'objectif de ce jeune homme est vraiment extrêmement louable. Il veut entrer dans la vie éternelle. Et ça, je trouve sincèrement que c'est déjà un bon point pour lui. parce que il avait conscience à cette époque-là. Il y avait, je pense, les gens étaient beaucoup plus sensibles à ce qui se passait un peu aussi après la mort, tout simplement, la vie après la vie, comme on le dit souvent. Et un des sujets qui quand même les travaillait, c'était qu'est-ce qui se passe après, et surtout comment ensuite, une fois que on vient à mourir, comment vivre éternellement et comment être dans la vie. Ça, je trouve que c'est quand même une belle démarche, non ? Vous trouvez pas ? Aujourd'hui, on a le sentiment que peu de gens s'inquiètent de savoir ce qui va se passer après. On vit un peu notre vie comme ça, et puis on est occupé par le quotidien, on est occupé aussi à chercher un petit peu son plaisir, son bonheur du moment, mais on ne se pose pas beaucoup la question de qu'est-ce qui va se passer le jour où je perds la vie sur la terre. Or, si vous regardez un petit peu aujourd'hui, même un certain nombre de scientifiques ou d'expériences aussi de mort imminente, hein, moi je me suis pas mal documenté sur ça, c'est un sujet très intéressant, il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes, je pourrais même dire des millions de personnes, qui témoignent du fait que, alors qu'ils étaient considérés comme morts ou sur le point de mourir, ils se sont vus eux-mêmes au-dessus de leur corps, par exemple, et se sont vus aussi, pour certains, se déplacer, voir un tas de choses, et ils sont des milliers à le dire. Et aujourd'hui, c'est tellement un élément, si vous voulez, connu de la science, qu'il y a même en France des hôpitaux dans lesquels eh bien, il y a des procédés scientifiques pour tenter de le vérifier. Je vous explique un petit peu ce procédé. C'était déjà il y a quelques années en France. À savoir, on met dans une chambre, vous savez, de réanimation, une boîte dans laquelle on met un appareil qui sort des mots, soleil, livre, dessin animé, et puis des mots qui sont aléatoires et qui sont enregistrés. Et puis cette boîte-là, on la met dans une boîte enfermée dans du carton avec du papier cadeau pour attirer le regard. Le regard de qui ? Le regard de celui qui est en train de mourir et qui, selon le témoignage de nombreuses personnes, sort de son corps, voit à 360 degrés, comme avec la technologie d'aujourd'hui, et est capable de passer au travers des éléments et est capable de voir au travers de tout ce qu'il veut. L'idée de ce papier cadeau, c'est d'attirer le regard du mort vivant, hein, on l'a bien compris, pour que le mort vivant regarde au travers de l'objet et voit tout simplement soleil, livre, etc., etc. Et que quand il revienne à lui, il puisse dire, vous savez, j'ai bien vu votre objet, et voilà ce qui était écrit. Et ça, c'est des opérations qui sont en France, qui ont été faites il y a déjà quelques années. J'en connais pas les résultats, mais je sais que ça a été fait, parce que les témoignages sont tellement nombreux et tellement troublants que les scientifiques veulent prouver aujourd'hui que la vie existe bien après la mort. Il y a tellement d'évidence dans les expériences qu'on en est au point de tenter de le démontrer scientifiquement. Vous vous rendez compte de ça ? Il y a des gens, par exemple, qui sont morts, qui ont assisté à un entretien entre leur famille et le médecin, qui était dans le bureau d'à côté, et qui, revenant à eux, disent « vous avez dit ça, ça et ça ». Il y a des gens qui ont été opérés à cœur ouvert, qui sont rentrés dans la salle d'opération en étant complètement inconscients, qui ont assisté du haut du plafond à leur opération, qui ont vu le nombre de personnes qui ont exercé, qui ont vu le matériel qui a été utilisé et qui ensuite ont raconté dans le détail tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait et par quel outil les choses ont été faites, le nom des outils. Et des gens qui sont comme vous et moi qui n'y connaissent rien à la chirurgie. Alors forcément, quand les chirurgiens ont des témoignages de cet ordre-là, ça pose question. Il y a quelque chose qui se passe après la mort. Et il y a en France, mais pas que en France, aux États-Unis, des quantités de témoignages recueillis. Hein, aux États-Unis, on parle de 15 millions de témoignages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est considérable. Alors, ce jeune homme riche, j'ai envie de dire sincèrement, se pose une bonne question. Comment je peux faire pour entrer dans la vie éternelle? C'est franchement une bonne question et il fait bien de se la poser. Aujourd'hui, comme je le disais tristement, trop nombreux sont les gens qui vivent un peu leur vie, je dirais, sans perspective, sans chercher à savoir, en se disant de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout porte à penser que c'est plutôt l'inverse en réalité. Le problème de ce jeune homme, ce n'est pas tellement le but qu'il s'assigne, parce que son but est très bon, entrer dans la vie éternelle, c'est la manière dont il veut y accéder. Et Jésus donc va l'accompagner. Cet homme vient vers Jésus et il pose quelque part, j'ai envie de dire, la mauvaise question. Que dois-je faire de bon pour entrer dans la vie ? C'est la question qu'on aurait tendance tous à se poser, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour pouvoir mériter d'aller au ciel ? Que Dieu, quand je rentre, quand j'arrive là, il m'applaudisse et il m'accueille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon ? Et Jésus, quand il entend ça, eh bien, il va lui dire, voilà ce qu'il faut que tu fasses de bon. Il faut que tu observes les commandements. Dieu nous a donné des commandements. Il faut que tu obéisses à Dieu, en substance, c'est ça. Et tous les commandements sont cités, jusqu'à aimer son prochain. Et le jeune homme dit ceci, c'est intéressant, il va dire, j'ai fait tout ça. J'ai observé tout ça. Et il pourrait très bien conclure en disant, puisque Seigneur Jésus, je t'ai demandé le conseil qu'il faut faire tout ça et que moi je l'ai fait, donc c'est bon, tout va très bien pour moi, merci Jésus, ça me fait plaisir d'avoir parlé avec toi, je sais que je vais au ciel. Vous remarquez qu'il a obéi à tout ce qu'il fallait et il va rajouter une question, mais que me manque-t-il ? Parce qu'en fait, ce jeune homme commet une erreur qui est une erreur fréquente, c'est qu'il veut mériter par ses propres efforts l'accueil de Dieu, l'accès auprès de Dieu. Il veut que Dieu soit fier de lui. Il veut que Dieu soit content de toutes ses œuvres. Et le problème de ce système-là, de cette approche-là, c'est qu'on arrivera toujours, après tous les efforts qu'on aura fournis, à cette question qui se posera encore dans notre cœur, que me manque-t-il encore ? Si tu as prié 2 heures, tu te diras, Seigneur, est-ce que j'ai prié assez ? Alors, que me manque-t-il encore ? Il va me manquer une petite demi-heure. Alors, je vais prier 2h30. Et puis, 6 mois plus tard, Seigneur, que me manque-t-il encore ? Encore une demi-heure. On va prier 3 heures. Et puis, j'ai donné 10 euros à un pauvre, il faut que je lui donne 12 euros. Je prends 2 euros de plus. Et ça va être valable pendant 1 an. Et puis, quand on revient vers Dieu, que me manque-t-il encore ? Vous voyez ? Et cette approche-là fait que, finalement, dans son cœur, on n'est jamais sûr de faire tout à fait bien. Et d'ailleurs, Jésus, dans sa bonté, va un peu le coincer, ce jeune homme riche. Il va lui dire, si tu veux être parfait, si c'est vraiment le chemin sur lequel tu veux, si tu veux vraiment mériter ton entrée dans le ciel par tes propres efforts, vends tout ce que tu as. Allez, hop, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi.
Oh, c'est trop, Seigneur, c'est trop dur.
Il avait apparemment beaucoup d'argent, et puis cet homme, donc forcément, comme tout un chacun, tenait quand même assez bien, et c'était trop demandé. Et Jésus l'a fait, je le pense, exprès, de trop lui demander, parce que quand on demande trop, on est sûr qu'on ne peut pas y arriver, n'est-ce pas ? Et la Bible nous dit que toute l'écriture, que la loi a été donnée afin d'enfermer les hommes dans la désobéissance. Le projet de Dieu au travers de ses commandements, au travers de sa loi, bien sûr c'est de nous indiquer le chemin de la vie, mais c'est aussi de nous faire comprendre que par nous-mêmes, par nos propres efforts, c'est au-delà de notre portée. Et qu'on a donc besoin d'un sauveur, qu'on a donc besoin d'une aide extérieure, de quelqu'un qui va le faire pour nous, à notre place. Et Jésus, va s'emparer de cela, bien sûr. C'est lui qui va obtenir pour les hommes les véritables mérites, les mérites absolus. C'est lui qui, à la croix, va payer ce prix-là. Jésus dira, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas forcément seulement à comprendre comme un riche sur le plan de l'argent, parce qu'on connaît des riches dans la Bible, comme Abraham, comme David et comme d'autres, qui sont dans le royaume de Dieu, des gens très riches même. Et Dieu n'est pas contre le fait que l'on soit riche. Ce n'est pas un problème. En France, parfois, être riche, c'est on est blâmé. Vous avez remarqué, on a des ministres là qui ont de l'argent. Hein, tout de suite, on les aime moins. C'est bizarre. Alors qu'ils seraient aux États-Unis, on les aimerait encore davantage. Parce qu'ils ont réussi. C'est bien. Il vaut mieux faire envie plutôt que pitié. Hein ? Et c'est bien, c'est pas un problème. La richesse, c'est celle que l'on pense avoir en soi-même. Si je pense qu'avec mes 2h30 et mes 10 euros plus 2 euros donnés aux pauvres, grâce à ça, je vais pouvoir mériter mon ciel, là, je ne suis pas prêt de rentrer. Parce que pour Dieu, ça ne suffira jamais. Tous mes efforts ne suffiront jamais à m'ouvrir la porte du ciel. Ça, c'est important. Toute ma richesse ne suffira jamais à m'ouvrir les portes du ciel. Et ça, c'est important de le comprendre. Tu peux avoir 20 sur 20, ça ne suffira pas. Parce qu'aux yeux de Dieu, la note qui est la tienne et qui est la mienne, de toutes les manières, n'atteindra jamais l'objectif par lui-même. Ça va ? Ça ne fait pas plaisir à entendre ? Ah ! On aimerait avoir 20 sur 20 aux yeux de Dieu. Mais vous savez, pour Dieu, Dieu est tellement saint, Dieu est tellement différent de nous, qu'il ne peut pas se satisfaire de notre vie telle qu'elle est ici, de tous nos efforts, même s'il il les approuve. Il est bon de faire le bien, il est bon de faire des efforts. Mais ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, c'est de mettre notre confiance dans le bien que nous faisons pour penser mériter son approbation à lui. Parce que là, dans ce cas-là, on se trompe totalement. Et c'est pour ça que Jésus va le déclarer clairement. Il va le dire, il le dit ouvertement. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Vous voyez un peu l'affaire. Totalement impossible qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dès qu'un homme veut rentrer dans le royaume de Dieu par ses propres forces, ça serait plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, pour vous dire la différence. Alors quand les disciples entendent ça, ils sont un petit peu comme nous. Mais qui peut être sauvé ? Alors la parole de Dieu, elle dit quoi ? Dans Romains 3, 23, tous les hommes ont péché. C'est Dieu qui déclare ça. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, on a tous fauté et le ciel nous est fermé, à tous, sans exception. Ouais, c'est pas marrant, hein ? Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que grâce à Jésus-Christ, grâce au mérite de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, alors on obtient un plein pardon et on obtient notre 20 sur 20, si je peux le dire comme ça, aux yeux de Dieu. Et là, on est sauvé. C'est pour ça qu'on a un sauveur. Noël, un sauveur, vous est né. S'il n'y avait pas eu besoin d'un sauveur, il ne serait jamais venu. Si on pouvait s'en sortir par nos propres efforts, Jésus ne serait jamais venu sur la terre pour donner sa vie en rançon pour nos péchés. Il ne serait jamais venu, il n'y en aurait pas eu besoin. On avait vraiment besoin d'un sauveur. Et la première étape pour justement aller au ciel, c'est de comprendre et de reconnaître que par nos propres forces, par nos propres efforts, cela n'est pas possible. Quand ils vont poser cette question à Jésus, les disciples ayant entendu cela donc vont dire à Jésus, « Qui peut donc être sauvé ?» Et j'aime ce texte qui dit « Jésus les regarda ». Il a regardé les disciples, les uns après les autres. Tous, avec amour, mais avec vérité aussi. Il les a vus avec leurs efforts. Il les a vus avec leur volonté de tout faire. Et il va dire ceci aux hommes, et pas seulement aux hommes riches, hein, aux hommes, cela est impossible. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Impossible. Tu es perdu. Tes efforts n'y suffiront jamais. Mais à Dieu, cela est possible. Alléluia. Et ça, c'est la grande bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ça qu'on a célébré aussi ce matin dans l'Église. C'est ça que quelque part disent le baptême. On entre et c'est Dieu qui nous fait grâce. C'est Dieu qui nous reçoit. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui nous rend méritants quelque part. Et qui lui-même nous rend dignes. Alors bien sûr, la question c'est comment toi tu vas te regarder. Jésus te regarde d'une certaine manière. Il te juge, il te jauge quelque part. Et quand il jauge chacun, il nous trouve tous trop légers. Pas suffisamment à la hauteur. Et bien qu'il nous aime parfaitement. Et toi, tu peux avoir faire le choix soit de te moquer totalement du sujet en disant « Oh, pff, moi, pff, m'en fous, moi. Je vis ma vie et puis je verrai bien ce qui se passera après s'il y a quelque chose après. » Attention, hein. Prudence, parce que Jésus parle bien d'entrer dans le royaume de Dieu, il y a un enjeu capital. Après la mort, je me permets de le dire comme ça, c'est le précipice. S'il n'y a pas le pont pour aller jusque dans le royaume de Dieu, c'est le précipice. La parole de Dieu est très claire. Il n'y a pas 50 000 options. Hein. C'est soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Et c'est le précipice. Et c'est pire que sur la terre. Donc il y a un enjeu important. Mais pour ceux qui vont dire, Seigneur, moi ça m'intéresse ce sujet-là, la question c'est de se dire, voilà, Seigneur, comment je vais faire pour aller de la terre jusqu'au ciel. Ben, Seigneur, mes efforts, je le reconnais ce matin, mes efforts ne peuvent pas suffire devant toi. C'est pas parce que j'ai, c'est parce que ta parole me le dit, tout simplement. C'est Dieu qui déclare ça. Et Seigneur, je veux croire en ta parole, tout simplement. Et donc, Seigneur, je reconnais que tous mes efforts n'y suffiront jamais. Je te demande pardon pour mes manquements en conséquence. Et je te demande, Seigneur, de me pardonner et de me permettre d'aller jusque dans ton ciel de gloire par tes mérites à toi. Qui a fait déjà cette démarche-là dans sa vie, hein? Vous pouvez lever la main. Voilà. Alors, on va proposer simplement une prière ce matin, parce que c'est important. C'est important, tout simplement. On va proposer cette prière. Si vous le souhaitez ce matin, vous pouvez, comme nous l'avons fait les uns et les autres ici, vous pouvez librement dire à Dieu, ben voilà, Seigneur, moi, je viens à toi, je reconnais que je ne suis pas parfait, je veux compter sur ta grâce, compter sur ton pardon, compter sur ton accueil qui, lui, est gratuit, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Vous voulez faire ça avec moi? On va le faire ensemble. J'invite ceux et celles qui, peut-être, ne l'ont pas fait ou ne l'ont jamais fait ou veulent le faire, eh bien, simplement à prier avec moi. On va se mettre dans la prière maintenant. Je vous invite à courber vos fronts un instant, à vous recueillir. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous le souhaitez. Mais si vous souhaitez faire cette démarche envers Dieu maintenant, bien faites-le afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi dans votre cœur, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Et ce matin, Seigneur, je reconnais que tous mes efforts ne pourront jamais m'acheter une place au ciel. Ce matin, Seigneur, je reconnais que sans ton aide, sans ton amour, sans ton pardon, je ne pourrai jamais, Seigneur, entrer dans le ciel. Et c'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je te demande, Seigneur, de me pardonner et je te demande, Seigneur, de me donner, Seigneur, ton 20/20 pour ma vie. mes efforts n'y suffiront pas, mais les tiens, eux, suffisent. Seigneur, je te donne ma vie, je t'ouvre mon cœur, bénis-moi, Seigneur. Amen. 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 Alors, si vous avez fait cette prière dans votre cœur, bien, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, lui, l'a vu, l'a entendu, et vous donne son amour, vous donne son pardon, et vous accorde ce 20 sur 20. Amen. Ça fait du bien d'avoir 20, n'est-ce pas? Hein? Grâce au Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Jean-Michel.
Merci au Seigneur, parce que l'Évangile, vous savez ce que ça veut dire? L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle merveilleuse.